Voilà. Alors j'ai été invité donc comme auteur de livre sur Jean Jaurès, pour un livre déjà il y a 3 ans, qui s'appelait Jaurès, la passion du journaliste. Et j'en avais parlé ici à Uzest. Et cette fois-ci, il y a un deuxième livre qui vient, mais qui n'est pas encore là. Donc je vais vous parler d'un livre qui n'existe pas. Bah, en principe, il devrait être présent dans la librairie début septembre. Voilà. Enfin, je peux quand même vous en parler parce que, comme je l'ai écrit, je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, je ne vais pas vous lire un texte, hein, parce que je trouve que c'est très ennuyeux pour vous, pour moi d'ailleurs. C'est très scolaire. Je vais essayer de vous en parler comme ça, un peu en vrac. Et la première chose que je voulais vous dire, c'est que ce livre, il s'appelle La victoire de Jean Jaurès. Quand j'ai annoncé le titre à l'éditeur, il a été un peu surpris, parce qu'évidemment, dire que de cet homme qu'il a remporté une victoire alors qu'il est mort assassiné le 31 juillet 1914, à la veille de la guerre, c'est un peu paradoxal. Mais après tout, les paradoxes, de temps en temps, c'est très productif. Pourquoi j'ai appelé ce livre « La victoire de Jaurès » ? C'est pour une raison extrêmement simple. Il est né, en fait, ce livre d'un énervement. C'est qu'on va vers le centenaire de 14-18, donc le 2 août 2014, précédé d'une célébration, l'assassinat de Jaurès le 31 juillet 14, 21h40, à Paris, au Café du Croissant. Et ce qui déjà s'annonce, c'est à peu près clair, même de façon officielle, c'est que vous allez être invité, et toute la France va être invitée, à pleurer sur les morts de 14-18. Il y en a eu beaucoup, 10 millions. 10 millions de morts de plusieurs pays, 1 million. Quatre jeunes gens français tués dans les tranchées, sur tous les fronts de 14-18. Et on va beaucoup pleurer sur Jaurès qui a été assassiné, cet homme si généreux, par cet affreux Raoul Villain, donc le soir du 31 juillet. Donc, on va être dans un grand pleur. Je dois vous dire que ce pleur sur les victimes, c'est un pleur qui a même servi à un moment donné à acquitter l'assassin de Jaurès. Dans les antécédents du livre, il y a eu la parution d'un livre déjà, un éditeur qui s'appelle Pagala. Ce livre s'appelle « Le procès de l'assassin de Jaurès ». C'est un livre extraordinaire parce qu'il n'y a pas un mot de commentaire. C'est toutes les pièces du procès qui a eu lieu au mois de mars 1919. Ils ont attendu, passe toute la guerre pour faire son procès de Raoul Villain, parce que naturellement, si on jugeait l'assassin aux assises, ça a eu lieu aux assises, ça allait réveiller les raisons pour lesquelles il avait assassiné Jaurès. Donc pourquoi Jaurès, lui, ne voulait pas de la guerre, et pourquoi lui, Villain, voulait de la guerre, etc. Et donc c'était fâcheux, puisque 14-18, vous le savez sans doute, ça s'est passé sous le régime de l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est tous les partis, tout le monde, toutes les religions, au coude à coude pour aller tuer de l'Allemand. Comme il y a eu l'Union sacrée des Allemands pour aller tuer des Français et des Anglais, bon, il y a eu l'Union sacrée des Russes, mais c'était déjà plus compliqué, du côté du Tsar, pour aussi entrer en guerre, et des Anglais. Les Italiens, eux, au début, ils ont été du côté de la Russie, d'Angleterre et de la France. Ils ont basculé en cours, ils sont passés du côté de l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne. Voilà. Donc tous ces peuples ont été invités à être dans une union sacrée nationale au nom de laquelle la guerre ne pouvait plus être discutée. Voilà. Ça, donc, c'est une chose extrêmement grave, parce que c'est le nationalisme qui prend cette forme à la fois politique et gouvernementale et qui justifie absolument tout. Donc une guerre, quand même, qui a duré plus de 4 ans et qui, je vous l'ai dit, qui a fait 10 millions de morts. Cette union sacrée, elle est revenue, je dis dans le livre, sous une forme rétrécie. Ça n'était plus l'union sacrée du départ en guerre, c'était l'union sacrée de la victoire. Parce que figurez-vous que vous avez dû l'apprendre dans les cours d'histoire ou dans les manuels, la France a gagné la guerre 14-18, l'Angleterre a gagné la guerre, la Russie a gagné la guerre. Et ceux qui ont perdu la guerre, c'est l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. Donc, le grand chef de guerre de cette victoire sur l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, il s'appelle Georges Clemenceau. Bon, Georges Clemenceau, on l'appelait le tigre, Il était très flatté de ce titre, hein, le tigre. Bon. Et on l'a appelé surtout, à la fin de la guerre, le père la victoire. Clémenceau, il allait dans les tranchées, il avait son chapeau, sa canne, il se baladait au milieu des poilus, des soldats, et ça lui a acquis, disons, une espèce de gloire auprès des Français, dont il a largement profité, et qui lui a permis, j'y reviendrai tout à l'heure, d'être ce qu'on peut appeler quand même un jusqu'au-boutiste de cette guerre. Voilà. L'autre, donc, l'autre personnalité de la guerre, de la Troisième République, c'est donc Jaurès. Lui, Jaurès, il est donc, je vous l'ai dit, tué le 31 juillet 14. La question qui est posée, c'est est-ce qu'il faut pleurer la victime Jaurès et est-ce qu'il faut honorer le triomphateur, le père de la victoire, Georges Clémenceau ? Bon, je pense, après avoir un peu regardé de plus près ce qui s'est passé en amont de la guerre et surtout ce qui s'est passé en aval après 1918, après le traité de Versailles qui est intervenu en 1919, qu'est-ce qu'il en était exactement de cette défaite de Jaurès ? Défaite. Bon, et de cette victoire de Clémenceau. Et je suis porté à penser désormais que c'est la base du livre que j'ai fait, c'est que la vraie victoire, c'est celle de Jaurès. Et la vraie défaite, entre parenthèses, de la civilisation, c'est Clémenceau. Pourquoi ? Parce que Jaurès, si vous le lisez, si vous l'écoutez dans ses grandes interventions dans les tribunes internationales, il y a eu beaucoup de grands meetings internationaux contre la montée de la guerre. Il y a le fameux meeting de Bâle, dans la cathédrale de Bâle, dont parle Aragon dans les cloches de Bâle, là. Bon. Et il y a eu Bruxelles quelques jours avant le déclenchement du conflit. Bon. Donc Jaurès, lui, déjà, sait que la guerre va arriver. Et ce qui est extraordinaire, quand on le lit, c'est que, pour ainsi dire, il raconte la guerre 14-18 à l'avance. Parce qu'il y a eu une première guerre en Mandchourie entre les Russes et les Japonais en 1904. C'est l'année où est créé l'Humanité, son journal. Et donc, dans cette guerre, dit Jaurès, il le raconte dans l'Humanité, première guerre de tranchées, première guerre à la baïonnette, des ruisseaux de sang dans les tranchées, des soldats qui montent à l'assaut les uns des autres sans attendre l'ordre de leurs officiers. Donc c'est déjà la guerre mondiale en perspective et qui va arriver donc en 1914. Donc Jaurès voit ça. Il voit l'horreur pointer son nez. Et cette horreur, il va essayer de mettre en garde contre elle pendant les 10 années qui séparent la 1904, la fondation de l'humanité, et donc le déclenchement du conflit en août 1914. Par exemple, dans la guerre des Balkans, qui est un article de lui dans l'Humanité, il dit, et tous les gouvernements, naturellement, diront que ce serait une horreur et une folie d'entrer dans cette guerre. Et Jaurès ajoute, mais peut-être que dans quelques semaines ou quelques mois, on est en 1912 quand il écrit ça, décembre 1912, ces mêmes gouvernements qui parlent d'horreur et de folie vont-ils appeler les peuples respectifs, leurs peuples, à entrer dans cette horreur et dans cette folie. Voilà. Donc, il ne se trompait pas. Et il ajoute, et ça m'a beaucoup marqué, il ajoute, et si des hommes à travers le continent veulent briser cette chaîne horrible, on les appellera des scélérats et des traîtres, et on aiguisera contre eux tous les châtiments. Eh bien, ce moment, cet angle de vue de Jaurès sur les scélérats, les traîtres, et sur lesquels on va exercer tous les châtiments, c'est exactement les mutinés de 1917. En 1917, il y a des soldats qui sont exaspérés par la durée de la guerre, pour eux même par l'arbitraire des généraux, qui ont été absolument terrifiants, d'inhumanité. Ils envoyaient les types au massacre. Il y en a un qui s'appelait Nivelle, on l'appelait le Niveleur. Bon, et donc ils sont exaspérés, ils se mutinent. Et là, ils en prennent 70, 80, ils les collent au mur, ils les font fusiller. Petit détail qui a son intérêt, ces soldats qui sont fusillés, ce sont des vieux soldats, enfin des vieux du point de vue de la guerre. Et leurs fusilleurs, ce sont des jeunes recrues. C'est-à-dire, l'armée, pour ça, elle est formidable. Il faut inspirer la terreur aux soldats qui sont exaspérés, qui sont des anciens de la guerre, et il faut inspirer la terreur aux nouveaux, aux bleus, qui arrivent, à dire, regardez ce qu'on fait, même aux anciens, s'ils se rebellent. Voilà. Il y a donc, en 1912, déjà, chez Jaurès, cette préscience de la guerre et de ses crimes inhumains. Et En 1913, il y a un autre article de Jaurès qui lui aussi relève de la prémonition. Il dit d'un sinistre leçon dans l'humanité, si Chauvin de France et Chauvin d'Allemagne réussissaient à jeter les deux nations l'une contre l'autre, la guerre s'accompagnerait de violences sauvages qui souilleraient pour des générations le regard et la mémoire des hommes. Et de cette boue monterait une vase sanglante qui marquerait les hommes pour des années, pour des générations. Bon, ça, j'y reviendrai parce que, sinistre leçon, Jaurès, c'est le 12 juin 1913, un an avant la guerre. Si vous lisez attentivement cet article, eh bien, on y retrouve quelque chose qui est déjà la grande alerte sur les suites de la guerre. Parce que pour moi, la vase sanglante, la boue, ces horreurs de la guerre, il y a un homme qui va sortir de cette boue, qui est un homme de boue, un homme d'horreur, il s'appelle Adolf Hitler. Parce que chez Jaurès, ce qu'il y a eu de formidable, c'est qu'il avait, parce qu'il a beaucoup étudié, il a beaucoup travaillé sur les guerres, il a beaucoup travaillé sur l'histoire, il est l'auteur d'un ouvrage absolument magistral qui s'appelle « L'histoire socialiste de la Révolution française ». C'était une série qui devait s'étendre bien au-delà de la Révolution française, mais elle s'est arrêtée en chemin. Mais lui a travaillé sur la Révolution française, je vous le recommande, parce qu'il y a une description de la Révolution française qui est absolument magnifique. Bon, même psychologiquement magnifique. Voilà. Donc, il a vu Jaurès, parce qu'il a, il a travaillé sur l'histoire, et il connaît les nations qui sont en cause, ce sont des empires, pour l'essentiel. Hein. Il y a l'empire austro-hongrois, il y a l'empire allemand, l'empire russe, l'empire britannique. La France n'est pas un empire, c'est une république, mais elle a un empire colonial, ce qui n'est pas rien dans cette affaire. Voilà. Donc, il a vu à l'avance. Et qui a fait en sorte qu'il a été capable de voir venir, un, la guerre, les horreurs de la guerre et les suites de la guerre, c'est précisément parce qu'il avait une vue générale. Jaurès, on dit, c'est un patriote, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a une vue sur le monde. C'est un internationaliste. Donc, à ce stade, si vous voulez, vis-à-vis de Clemenceau, mon livre, si vous voulez, c'est sur les traces de Jaurès. Le premier livre, c'était « qu'est-ce qu'a écrit Jaurès ?» dans les journaux, spécialement, si Jaurès est journaliste. Bon, très bien. Mais après, est-ce qu'il y a une seconde vie de Jaurès ? C'est le problème que je pose. C'est-à-dire, est-ce qu'après le 31 juillet, 21h30, est-ce qu'il y a une autre vie de Jaurès ? Qui n'est pas le Jaurès vivant, qui est après le Jaurès mort, qu'est-ce qu'il reste de Jaurès ? Quelles ont été ses traces ? Bon, ça m'a beaucoup intéressé, et j'ai essayé de montrer que ces traces étaient nombreuses. Par exemple, dans un chapitre du livre, je me suis un peu risqué, qu'aurait-il fait vivant ? Qu'aurait-il fait vivant ? Vous savez, à chaque fois que j'ai fait des débats sur Jaurès, la plupart des gens, à la fin, me disent « c'était intéressant et tout », mais qu'est-ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas été tué pendant la guerre ? Et qu'est-ce qu'il aurait fait au congrès de Tours quand il y a la scission à l'intérieur du Parti socialiste entre ce qu'on appelle les sociodémocrates et ceux qui vont devenir communistes, qui ne s'appelaient pas encore comme ça tout à fait. Bon, eh bien, ça c'est à Tours en décembre 1920. Donc c'est des questions extraordinaires. Alors évidemment, il y a des gens qui disent « on ne fait pas parler le mort ». Bon, c'est vrai, on n'a pas à faire parler le mort, il n'est plus là. On ne peut pas se substituer à lui. Mais ce que j'essayais de faire, ce n'est pas de faire parler le mort, mais d'essayer de tirer du vivant ce qu'on pouvait penser de ce qu'aurait pu être son comportement. C'est une hypothèse, pas plus, pendant la guerre. Et d'ailleurs, dans mes lectures, j'ai été renforcé par un philosophe qui s'appelle André Tozel, qui est un grand spécialiste d'Antonio Gramsci. Bon. Et un jour, il m'a fait découvrir une chose, c'est qu'il y a des articles de Gramsci de 1915-1916, pas longtemps après la mort de Jaurès, qui sont assez étonnants. Par exemple, Gramsci dit à un moment donné « Tuez-nous tous, tout ce qu'il y a de bon en Jean Jaurès, nous l'avons absorbé. » Bon, vous voyez que c'est, en matière de traces, on peut guère faire mieux. Voilà. Alors ces traces, première trace, qu'aurait-il fait en 14-18 ? Alors, je dis, ben, évidemment, personne ne peut affirmer quoi que ce soit de certains sur le comportement de Jaurès. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à la veille de 14-18, à la veille même, le jour même de son assassinat, à 18h, il était reçu au ministère des Affaires étrangères. Parce que Jaurès était un homme qui dénonçait vertement et qui, en même temps, essayait toujours d'orienter les choses, y compris auprès de son propre gouvernement. Il va voir le président de la République, il va voir le président du Conseil, il va voir le ministère des Affaires étrangères, il parle avec eux, parce que c'est pas une espèce d'ultra-gauchiste comme ça qu'on ne veut pas voir, c'est quand même un homme politique de premier plan. Donc même les gens du gouvernement font attention à ce qu'il peut dire. Bon, il va les voir, et on sait ce qui s'est dit à 18h au ministère des Affaires étrangères, parce que figurez-vous qu'il y a un homme qui s'appelle Albert Ferry, qui est le neveu de Jules Ferry, l'ex-président du Conseil, les pères des lois scolaires des années 1880. Et Abel Ferry dit, donc, le 31 juillet, à 18h, Georges Jaurès est venu nous voir, et il dit ça quand on raconte quand il apprend qu'il est assassiné, et il nous a dit, vous êtes victime d'Ivolski, c'est l'ambassadeur du Tsar à Paris, et d'une intrigue russe, nous vous dénoncerons, ministre à la tête légère, dussions-nous être fusillés. Voilà. Donc c'est à quelques heures, à quoi, 3 heures de l'assassinat. On sait aussi qu'il y a un fameux discours qu'on appelle le discours de Vèze, qu'il a prononcé à Lyon, dans la banlieue de Lyon. Vèze, c'est peut-être pas la banlieue, c'est peut-être, ça fait partie de Lyon, je crois. Bon. Et c'est un fameux discours dans lequel, alors là, il met en garde, parce qu'il sent que la guerre approche, qu'elle va avoir lieu. Et il y a une phrase dans ce discours qui est très impressionnante, dans laquelle il dit « Et si la guerre éclate, nous n'aurons qu'une chose à faire, nous les socialistes, c'est à nous sauver. » À nous sauver. Nous sauver de quoi? Ben, nous sauver, c'est clair, de la responsabilité de la guerre, de la culpabilité de la guerre. Ça, c'est très important, parce que 25 juillet, 31 juillet, il fait reproche au gouvernement français d'être victime d'une intrigue russe. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer que la guerre déclarée le 2 août, Jaurès se serait mis à approuver la guerre. Moi, je suis de ceux qui n'arrivent pas à penser que Jaurès aurait accepté, comme les dirigeants socialistes, comme Jules Guesde, celui qui, du point de vue marxiste, polémiquait souvent avec Jaurès, on rejoint l'Union sacrée et on fait partie du gouvernement de la guerre. Ça, je n'arrive pas à le croire. Ce que je pense, c'est que Jaurès, étant donné les positions qu'il avait prises, il aurait continué à contester les raisons de cette guerre. Ça, chez moi, c'est une conviction. Mais pour autant, est-ce qu'il se serait lavé les mains de ce qui se passait en France une fois les Allemands rentrés par la Belgique, hein, parce que ça s'est passé très vite, voilà. Et donc, je pense qu'il aurait participé à sa manière, pas comme un bout de feu, il aurait participé à sa manière à la défense de son pays. Parce que les Allemands ont quand même envahi la France par la Belgique. Donc il fallait bien faire face à cette situation. Je pense qu'il se serait exprimé sur les événements, sur ce qui se passait. Et je pense qu'il aurait, mais ça c'est dit dans plusieurs de ses livres, il aurait continué à exercer son esprit critique sur la guerre et même sur la façon dont la guerre a été menée. Parce qu'il y a une chose qui est étonnante chez Jaurès, c'est qu'il a publié en 1910, un gros ouvrage qui s'appelle « L'armée nouvelle ». Peut-être certains d'entre vous le connaissent-ils. C'est un grand livre, absolument magnifique. Bon, « L'armée nouvelle ». Donc c'est la conception qu'a Jaurès de la défense et de l'armée. Et ça va très loin, parce que Jaurès n'est pas un antimilitariste. Il est absolument contre la guerre, il est absolument contre une armée d'agression, une armée de proie, comme il dit. Bon, mais il est pour une armée de défense nationale. Il y a d'ailleurs des officiers supérieurs dans la famille de Jaurès. Il y a 2 amiraux. Bon, donc c'est pas. Et ce livre, il l'a rédigé aussi avec un fameux capitaine qui s'appelle le capitaine Gérard. Mais il a consulté des bouquins de stratégie militaire. Il s'est beaucoup instruit. Et il en avait fait d'ailleurs une proposition de loi qui n'a jamais abouti parce que les socialistes ne l'ont pas vraiment défendue. Mais non. Et dans ce livre, vous avez une chose étonnante, c'est que il dit, si la guerre éclate, les Allemands rentreront par la Belgique. C'est exactement ce qui s'est passé. Il dit, la guerre sera longue et totale. C'est exactement ce qui s'est passé. Bon, c'est-à-dire que lui, il avait compris à l'avance, parce qu'il avait vraiment étudié la situation, que la guerre allait être meurtrière, très longue, terrible. Bon, et donc qu'il fallait, dit-il, il aurait fallu constituer des réserves. Il y a eu en 1913, un grand meeting au Pré Saint-Gervais, à Paris, le 25 juin, Et ce meeting, c'était contre la loi des 3 ans. La loi des 3 ans, c'était que le gouvernement français avait décidé d'étendre, d'augmenter la durée du service militaire à 3 ans. Bon, ça voulait dire qu'il se préparait à la guerre, déjà, c'est évident. Bon, et donc, Jaurès comprend là que ce sont déjà des préparatifs de la guerre, et il comprend aussi que la conception que vont avoir les autorités de l'armée, ça va être ce qu'il appelle une armée de caserne. Une armée de caserne, vous, mesdames, vous ne connaissez pas l'armée de caserne. Et les hommes un peu âgés qui ont connu la caserne, je peux vous dire, c'est vraiment pas un préparatif au combat, la caserne. C'est une école d'apprentissement. Parce que là, les soldats, ils errent dans la caserne, ils ne savent pas trop quoi faire et tout. C'est une armée de discipline, ni plus ni moins. Voilà. On monte les couleurs, on se met au garde à vous, on salue l'officier. Voilà. Jaurès, lui, il a une conception, c'est une nation armée. Et pour ça, des réserves. Parce que, dit-il, les réserves, le jour où il y aura la guerre, elles seront déjà exercées, mobilisées directement sur le front. Il dit, il vaut mieux 1 million d'hommes exercés, armés, pour se défendre. Toujours, il parle, lui, de légitime défense, bien sûr. Bon, c'est beaucoup mieux que 3 millions d'hommes dans les casernes. Voilà, ça, c'est la conception de Jaurès. C'est ce qui me fait dire, d'ailleurs, que peut-être que c'est le pacifiste le plus célèbre de France qui aura peut-être été aussi le meilleur stratège de la défense nationale. C'est un paradoxe intéressant, ça. Voilà. Donc il a déjà une vue sur la manière même du combat. Je pense qu'au fur et à mesure du développement de la guerre, il aurait aussi développé ses idées. Par exemple, la nation armée. Bien, vous savez, les premiers combats, ça se déroule à Charleroi, du côté de la Belgique. Les Français prennent une véritable raclée. Foch veut foncer sur la Belgique. Et il se fait prendre, là. Et c'est une dérouillée maison, en termes militaires. Bon, donc il faut se replier, déjà se replier, voilà. Et la guerre, ça a duré. Mais finalement, les fameuses batailles de la Marne, à quoi font-ils appel, les taxis, etc. C'était une certaine mobilisation populaire pour défendre la France. Donc cette idée de nation armée, elle est chez Jaurès. Et quand je parle des traces de Jaurès, cette trace de nation armée de Jaurès, on va la trouver, enfin moi je l'ai trouvée, tout au long du XXe siècle. Bon, par exemple, en 1944, quand se forment les forces françaises de l'intérieur, il y a les FTP, il y a tous les réseaux armés, la résistance intérieure, et il y a Londres, il y a l'armée des forces françaises libres, qui sont à Londres sous l'autorité du général de Gaulle. Ils vont fusionner de 1944 à 1945 jusqu'à la victoire sur l'Allemagne. Le 8 mai, eh bien ça, c'est une fusion qui est en quelque sorte déjà une forme de la nation armée et qui sera victorieuse et qui s'inspire, ça je reste dit directement dans l'armée nouvelle, ça rappelle quoi? Ça rappelle l'amalgame de Valmy et de Fleurus. Vous le savez, à Valmy, les sans-culottes ont vaincu au cri de « Vive la nation !»« Vive la nation armée bon, !» Et déjà ces sans-culottes ont été aussi encadrés par l'armée de ligne. C'est ce qu'on a appelé l'amalgame, où il y avait des officiers qui dataient de la royauté. Et les victoires historiques, vous connaissez les mots de Goethe à Valmy, hein, d'ici et de cette date, date une nouvelle ère de l'humanité, bon, ce sont des victoires absolument historiques, ce sont des victoires de la nation armée. C'est de cette conception que s'inspire Jaurès, quand il a en vue la guerre qui risque d'arriver. Et dans cette trace, bon, vous ne trouverez peut-être pas ça folklorique, mais parce que je trouve que c'est sérieux, et même ça paraît lointain, il y a un homme qui, en 1945, à l'Indochine, l'Indochine a été occupée comme la Chine par les Japonais, ça a été atroce, mais il y a la colonisation française. Bon. Et il y a un homme là-bas qui est à la tête du mouvement de libération, qui s'appelle le Viet Minh, qui rencontre des socialistes français. Il y avait des socialistes français parmi les coloniaux. Bon, et ces hommes disent, de la part de leur leader, qui est Tonton Cochimil, et ils lui disent, vous savez, nous, l'indépendance de l'Indochine, du Vietnam, on ne la veut pas pour tout de suite, mais il faut s'y préparer. On accepte qu'elle soit échelonnée. On ne veut pas chasser tous les Français et les remplacer du jour au lendemain. Et, ajoute-t-il, auprès de ces socialistes, mais si vous refusez ça, nous passerons à une guerre que vous aurez beaucoup de mal à contenir, parce que nous connaissons le pays, et notre stratégie sera celle de la nation armée. Et disent-ils, Ho Chi Minh fait dire que pour cette lutte comme une nation armée, le Vietnam, il s'inspirera d'un ouvrage d'un grand socialiste français. Eh bien, ce grand socialiste français, c'est Jaurès. Donc, vous voyez qu'Ho Chi Minh, là-bas, dans la lointaine Asie, il a lu Jaurès. Il est vrai qu'il était au congrès de Tours, Ho Chi Minh, donc il était un familier de l'histoire française, mais il a lu Jaurès. Donc, cette histoire de nation armée, vous voyez, ça va loin, quand même. Alors, ça, c'est la trace du Jaurès par rapport à la guerre. Je vous disais tout à l'heure que cette boue sanglante dont il parle en 1913, c'est carrément le nazisme. Et vous savez, il y a beaucoup d'historiens maintenant qui pensent que Nicolas Offenstadt, l'historien qui fait un peu autorité maintenant parmi les plus jeunes, le plus ancien qui a fait la préface du livre s'appelle Marc Ferro. Bon, mais Nicolas Offenstadt appelle, lui, la période 1914-1944, la guerre de 30 ans. C'est-à-dire, il fait, et plusieurs historiens le font, ils font un lien et ils font un bloc avec les deux guerres. Parce que la Seconde Guerre mondiale sort, dans une certaine mesure, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas mécanique, mais sort de la Première Guerre mondiale. Parce que les horreurs de la Première Guerre mondiale ont fabriqué une humiliation de l'Allemagne absolument épouvantable qui a fait que, chez les Allemands, ce sentiment d'humiliation et la honte de cette humiliation a cultivé un nationalisme qui a été aiguisé après par toute la crise, le krach de Wall Street, le chômage de masse et tout, et il en est sorti ça. Par-dessus le marché, il y a eu, alors, en 1919, le traité de Versailles, qui a été signé le 28 juin 1919. Ce traité de Versailles, il y a un article très court, qui est l'article 231, qui dit « L'Allemagne reconnaît que seule l'Allemagne est coupable de la guerre qui a été déclenchée par l'Allemagne. » Il doit y avoir 10 mots, il y a 3 fois le mot « Allemagne ». Dans le livre, je m'amuse un peu, je dis que ce n'est pas une lourdeur de style, c'est une lourde insistance. C'est-à-dire que les vainqueurs, vous savez, comme on dit, c'est la paix des vainqueurs, à un moment donné, ils ont tout mis sur le dos de l'Allemagne. Alors la question est posée, est-ce que l'Allemagne a été coupable de 14-18 ? Oui, dans une certaine mesure, c'est la première qui s'est mise en mouvement et qui est entrée en Belgique. Mais, là encore, il faut avoir recours à Jaurès. Si l'événement se produit le 2 août, le 3 août, le 14, si vous voulez, cette guerre, elle s'est déclenchée bien avant. Et ça, chez Jaurès, il y a des éléments très, très importants qui peuvent nous aider à repérer où sont les germes de la guerre. Il y a aussi des germes économiques, même idéologiques, si vous voulez. Mais il y a un premier germe, c'est la question des alliances. Parce que dès la fin du XIXe siècle, se forment des alliances. Et la France, là, est très en pointe aussi avec la Russie du Tsar pour former une alliance qu'on appellera, c'est la Triplice, la Triple Entente. Bon, et déjà là, l'Allemagne se sent menacée. C'est-à-dire cette alliance Russie-France, les Anglais étaient beaucoup plus prudents. C'est un axe, c'est un véritable axe, si vous voulez, qui essaye de prendre en étau l'Allemagne, qui est devenue, après l'Angleterre dans les siècles précédents, l'ennemi historique. La France a perdu la guerre de 1870, elle a perdu l'Alsace-Lorraine, voilà. Donc, il y a une guerre là, larvée, et cet axe Russie du Tsar, France de la République, si vous voulez, c'est un axe déjà qui, dans une certaine mesure, détermine les suites de la guerre. Mais l'Autriche-Hongrie va faire pareil avec l'Allemagne. Donc ces alliances sont des alliances de préparation à la guerre. Donc Jaurès a très bien repéré que ce jeu des alliances, ces stratégies qui recoupent aussi, bien entendu, comme toujours, des ambitions territoriales, des convoitises. Par exemple, la France a pris possession en partie du Maroc et l'Allemagne lui dispute encore en 1912 cette possession du Maroc. Il y a des incidents à Agadir. Bon. Et donc, la guerre, le traité de Versailles va conforter la France dans sa possession, la colonisation du Maroc. Donc, on comprend très bien que cette guerre a été faite aussi pour régler des comptes entre empires. empire, ou empire colonial, comme la France. Donc, ils se sont répartis. Les Russes, eux, espéraient avoir accès au Bosphore, une partie de la Pologne. La France avait, dans les négociations secrètes avec les Russes, c'est Édouard Daladier, qui n'est pas le dernier, qui s'est fait écho de cette affaire, si vous voulez, avec les Russes, ne cessait de réclamer la rive gauche du Rhin, c'est-à-dire une partie de l'Allemagne. Donc ils avaient les dents très longues. Et la guerre était faite aussi pour régler tous ces comptes. En réalité, quand on y regarde la guerre, déjà, si vous voulez, c'est un choc, un ébranlement de toute l'Europe, puisque l'Empire austro-hongrois est démoli, l'Empire russe terminé, bon, l'Empire britannique demeure, donc l'Empire allemand, prussien, lui aussi, ne finira pas la guerre, si vous voulez. Donc, c'est un ébranlement de toute l'Europe. Mais c'est un ébranlement, Jaurès dit à un moment donné, que les révolutions sont des répliques des guerres. Bon, et il ne se trompe pas beaucoup, parce que quand vous regardez ce qui est survenu dans les révolutions nées de 14-18, c'est un sacré tableau. Alors, il y a la Russie révolutionnaire, des bolcheviks, de Lénine, qui va tenir le coup, mais à quel prix? Il va y avoir une guerre civile absolument terrible. Le spartakisme en Allemagne de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht va être massacré. L'insurrection de Vienne, qu'on appelle Vienne la Rouge, va être massacrée. La Hongrie révolutionnaire de Béla Kun est massacrée. Si vous voulez, donc, ces ébranlements des empires vont aussi avoir des répliques comme ça, qui vont faire que les révolutions nées de l'exaspération devant ces guerres, eh bien, ces révolutionnaires, relativement isolés dans chacun de leurs pays, vont être massacrés. Je vous parlais de l'Union soviétique, de Lénine. Là, il y a quelque chose de très important. Et c'est là où je pense que Clemenceau a été absolument terrible. Et Jaurès avait vu loin. C'est que en 1917, je vous ai parlé des mutineries sur le front, des soldats, le pape s'alarme à nouveau, comme il avait fait en 1914, et la Russie se retire du conflit. Elle se retire du conflit, on peut penser ce qu'on veut des suites de l'Union soviétique, enfin, quand même, c'est le premier grand pays qui, en 1917, dit « paix à tout le monde, pas d'annexion ». C'est quand même ça un geste politique. Et aussi les nationalités. Il y a 3 décrets de la révolution d'octobre. C'est un geste formidable. Bon, ça, c'est l'histoire de la Russie soviétique, si vous voulez, mais ce qui est important dans cette affaire de 1917, c'est que là, Gilles Kandar, l'historien, a publié une grande biographie de Charles... Jean Longuet, qui est le fils de Charles Longuet. Bon. Et Jean Longuet, qui optera plutôt pour Blum que pour Cachin au congrès de Tours, si vous voulez, dit qu'à un moment donné, il y avait la chance que des contacts soient pris et que des pourparlers avancent pour hâter la fin de la guerre en 1917. Ça, c'est clair. Moi, je dis dans le livre, si Jaurès avait été vivant, c'est sûr que là, il aurait saisi le nouveau contexte créé des rébellions de soldats, de la Russie qui s'est retirée du conflit, pour essayer, là, d'avancer. Voilà. Parce que pour la première fois, en 1917, ben, ça a commencé un peu avant. Mais là, ça se manifeste vraiment. Il y a des contacts, à nouveau, entre les socialistes allemands, autrichiens, français, anglais, ce qui avait été rompu depuis donc la guerre en août 14. Cette histoire des socialistes en Europe, elle est absolument, c'est une histoire absolument terrible, parce que je dis la victoire de Jaurès, mais Jaurès a été cruellement frappé, parce que les derniers grands meetings contre la guerre, notamment celui de Bruxelles, je crois que c'est le 30 juillet 14, si vous voulez. Là, il y a un grand discours de Jaurès et il dit « Si la guerre doit éclater, les prolétaires seront appelés dans tous les pays par les socialistes à la grève générale contre la guerre. » Et des grèves générales, il n'y a pas eu de grève générale. Les socialistes allemands ont voté les crédits de guerre, les socialistes français ont voté les crédits de guerre. C'est-à-dire que là, il y a eu aussi, dans les méfaits de la guerre, dans les destructions de la guerre, il y a eu la destruction du socialisme tel qu'il était à cette époque-là, qui était un socialisme en pleine expansion. Il y avait, les socialistes français étaient à plus de 10% des voix, guette Jaurès, quoi. Les socialistes allemands recueillaient 35% des suffrages. En 1914, les deux syndicalismes allemands et français étaient en pleine expansion. Il y avait donc une progression de l'idée socialiste et du syndicalisme qui était tout à fait remarquable en 14. La guerre 14-18 a cassé tout ça. Après, c'est reparti, mais sous une autre forme. Par exemple, le spartakisme en Allemagne, qui se fait massacrer par qui ? Par la social-démocratie allemande. Par exemple, en France, où le mouvement socialiste a été divisé entre socialistes et communistes. Bon, après, ça a donné ce que ça a donné. Bon, jusqu'au Front populaire, ils se sont retrouvés. Bon. Donc, si vous voulez, là, la guerre 14-18 a été un champ de ruines. Pas qu'un champ de mort, mais un champ de ruines aussi des idées politiques, du syndicalisme. Il a fallu reconstruire tout ça, et ça a pris du temps. Alors, pour ne pas être trop long, les traces dont je parle de Jaurès, ce ne sont pas celles que de la guerre, même si elles sont majeures pendant la guerre et après la guerre, avec la montée du nazisme en Allemagne, qui va se payer très cher. Ce sont des traces aussi qui sont des, j'appelle ça des fils essentiels, qui viennent de Jaurès et qui traversent tout le XXe siècle jusqu'à nous. Il y en a une, ça fait partie des grands événements qu'il a dû affronter, c'est l'affaire Dreyfus. Bon, la trace de l'affaire Dreyfus, pour moi, c'est un choix que j'ai fait. L'affaire Dreyfus, vous la connaissez, le capitaine Dreyfus, donc, en 1894, qui est condamné pour avoir livré des secrets à l'Allemagne, qui était un faux fabriqué par des officiers, qui n'aimait pas beaucoup cet officier juif qui montait dans la hiérarchie militaire. Bon, donc il le condamne, il le dégrade, il l'envoie au bagne. Bon, et voilà. Et au début, Jaurès ne croit pas. Il croit. Clémenceau est plus rapide que lui, à cet égard, dans la méfiance vis-à-vis de ce qui a frappé Dreyfus. Bon, l'affaire se développe. Il y a le fameux j'accuse de Zola en janvier 1898, où Jaurès accepte d'être témoin. Donc là, déjà, il se rapproche des Dreyfusards, on les appelle comme ça. Bon. Et il va intervenir. Là, Jaurès va intervenir d'une façon qui a marqué vraiment l'histoire de France, c'est qu'il va publier une série d'articles en 1898 dans La Petite République, c'est un journal socialiste, parce que dans La Dépêche, qui était le journal auquel il collaborait à cette époque-là, La Dépêche était plutôt anti-Dreyfusard. Et donc, il y avait un problème. Donc c'est La Petite République qui signe 44 articles qui vont être rassemblés dans un document qui est formidable, qui s'appelle L'épreuve. L'épreuve de l'innocence de Dreyfus. C'est un ouvrage absolument extraordinaire, parce qu'il passe tout en revue, tous les événements, toutes les erreurs, toutes les failles du dossier d'accusation, tous les personnages, le commandant Esterhazy, tout le président de la République. Voilà. Et cet ouvrage va marquer profondément, si vous voulez, la conscience française en 1898, et il va aller encore plus loin, c'est que en 1900, en fin 1899, Dreyfus est gracié, parce que c'est tellement incohérent tout ça. Même le Conseil de guerre l'a à nouveau condamné en décembre 1899 avec des circonstances atténuantes, ce qui est absurde. Bon. Et donc, il est gracié par le président de la République. Et là, si vous voulez, il va falloir attendre 1906 pour que Dreyfus soit vraiment réhabilité. Et l'homme politique qui, à un moment donné, ne lâche jamais Dreyfus et qui le lui dit, parce que quand il est gracié, Dreyfus, donc, quitte la prison et il rejoint sa famille. Et qui lui dit, ça, je ne vous laisserai jamais jusqu'à la réhabilitation, c'est Jaurès. Pourquoi ? Parce que dans l'affaire Dreyfus, il n'y a pas que le sort de Dreyfus. Bon, pour Jaurès, le sort d'un homme, c'est le sort de l'humanité. Ça, c'est clair. Bon, et en même temps, il y a toute la question de la justice dans un pays qui se dit démocratique comme la France. Donc la réhabilitation de Dreyfus en 1906 est très importante. Pourquoi est-ce si important ? Parce qu'en 1902, il y a des élections législatives. Et là, vous avez une partie des socialistes qui disent oh, « Bon, écoutez, il a été gracié, attendons, il n'y a plus le feu ». Et comme ça nous fait perdre des voix, parce que la France, quand même, avait une bonne dose d'antisémitisme, quand même, hein, à cette époque-là. Et donc, ça leur fait perdre des voix. Donc, oh, Dreyfus, attendons la suite. Jaurès, lui, dit non. Tant qu'il ne sera pas réhabilité, on se battra pour la réhabilitation. C'est un fait très marquant chez Jaurès et qui va marquer toute l'histoire du pays. Parce que c'est pas pareil, Dreyfus gracié ou Dreyfus réhabilité. C'est pas pareil. Parce que réhabilité, ça veut dire que l'état-major de l'armée a commis un faux, que le gouvernement de la France a menti, donc que les institutions de la République ont failli. Et ça, dans l'histoire de France, c'est un événement tout à fait capital. Le deuxième événement qui va intervenir derrière, qui concerne de près aussi le sort de la République, c'est la séparation des Églises et de l'État. Donc ça devient la loi le 9 décembre 1905, après les travaux qui durent pendant des années. Le rapporteur de la loi, c'est Aristide Briand, qui joue un rôle très important. Parmi les acteurs décisifs, il y a Jaurès. Bon, et pour faire vite, si vous voulez, ce qui est très important, par exemple, chez Jaurès, par rapport à Clémenceau, parce que ce Clémenceau, je ne le lâche jamais, bon, eh bien, c'est que Clémenceau est radical, très anticlérical. Lui, de quoi a-t-il envie ? Il veut créer, quand il est président du Conseil, des délits de messe. Des délits de messe, c'est pas mal. Bon, et Jaurès est absolument contre ça. Il ne veut pas la guerre avec les croyants. Il veut les tenir en respect, c'est-à-dire on respecte leur pratiques religieuses, leurs convictions, mais on introduit la laïcité totale au niveau de l'État, de l'école, etc. Séparation, hein. C'est pas destruction de la religion, c'est pas des... Chez Clémenceau, il y a un côté, et dans une partie d'extrême-gauche de l'époque, il y a l'idée quand même qu'on va en profiter pour régler son compte à la religion. Bon, personnellement, je pense qu'il y a des pays qui ont essayé de régler son compte à la religion, ça ne s'est pas très bien passé, voilà, parce qu'on ne détruit pas la religion comme ça, par décret d'État. Voilà. Et donc là, Jaurès, lui, va avoir une espèce de finesse, de touche, de doigté formidable, parce qu'il comprend, mais ce serait trop long de vous énumérer les péripéties de l'adoption de la loi. Par exemple, lui, il s'arrange pour dire à l'Église, on ne touchera pas, si vous voulez reprendre le contrôle des offices, des lieux de l'Église, des lieux catholiques, c'est votre droit à une condition, c'est que vous respectiez désormais la loi de la République. Donc il oblige l'Église, il ne combat pas l'Église, mais il l'oblige à s'insérer dans la loi républicaine. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que, sans trop épiloguer, si vous voulez, cette loi de séparation, dans les traces, j'en ai choisi une, moi, si vous avez le livre, ça vous amusera, je dis que je l'ai trouvée au fond des urnes le 6 mai 2012. Pourquoi ? Parce que le 6 mai 2012, Nicolas Sarkozy est battu par François Hollande. Or, dans les sondages, il a perdu des voix chez les catholiques. Entre 2007 et 2012, il a perdu près de 6% des voix chez les catholiques. Et pourtant, en décembre, je ne sais pas si vous vous souvenez, en décembre 2007, fort de son élection triomphale, il a quand même fait 54%, hein, en 2007, il va à Rome, il rencontre le pape, c'est une visite d'une rare complaisance, et il va donc chanoine de Latran, il fait ce fameux discours dans lequel il sort cette phrase incroyable, les gens ne croyaient pas leurs oreilles, c'est en matière de morale, si vous voulez, pour faire la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé. Ça, c'est quand même extraordinaire. Bon. Eh bien, en dépit de cette complaisance, de ces flatteries pour les catholiques, pour l'Église, pour la hiérarchie, bon, eh bien, il va perdre des voix chez les électeurs catholiques. Pourquoi ? Mais c'est absolument évident. Parce que les catholiques, ils vont peut-être à la messe, pas tous, bon, et en même temps, ce sont des citoyens. Par exemple, les catholiques, eh bien, les proportions chez les catholiques n'étaient pas très différentes dans le non au référendum sur le traité constitutionnel de 2005. Ce sont des citoyens catholiques, ils font l'épreuve de la vie. Moi, je le dis dans le livre, la concurrence libre et non faussée, c'est pas exactement l'Évangile. Donc, ils peuvent aussi avoir exercé leur esprit critique. Voilà. Donc, vous voyez que cette séparation des Églises et de l'État, ça aura des suites très importantes. Ça aura des suites aussi très importantes pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que et avant, parce qu'il y a une des marques du Front populaire en France qui a été victorieux un temps, en 1936, et ensuite dans la Résistance. Le vert d'Aragon, vous le connaissez, celui qui croyait au ciel, celui qui ne croyait pas. Dans le Front populaire, il y a des grands intellectuels catholiques et des grands intellectuels marxistes ou anarchistes, ou, ben bon, si vous voulez. Et donc, il n'y a pas eu, la France n'a pas été marquée par ce qui va marquer d'autres pays voisins, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, qui vont être fascistes. Et dans ces pays fascistes, il faut le dire, les hiérarchies, disons, ecclésiastiques, ont joué quand même un rôle très néfaste. Bon, on le sait pour l'Espagne, c'est absolument évident. Bon, et donc, ça n'a pas été le cas en France. L'Église a été sollicitée par Vichy, ça oui. Les dignitaires religieux étaient aux côtés de Pétain, étaient aux côtés de... Mais ils n'ont pas pu en faire beaucoup plus. Il y a un livre, alors, ces deux événements, je les rassemble. L'affaire Dreyfus, le sort, la réhabilitation de Dreyfus, c'est une victoire. Une victoire, pour moi, c'est une victoire aussi de Jaurès. La séparation de l'Église et de l'État, qui va se solder aussi par des victoires dans les mœurs idéologiques, philosophiques et politiques en France. Bon, je les joins, ces deux épisodes et ces deux victoires, parce qu'il y a une trace qui est absolument extraordinaire, c'est qu'au début du XXe siècle, la France a été largement antisémite. Ensuite, qui va réveiller l'antisémitisme? C'est Vichy. Bon. Et il y a un livre qui vient de paraître de Jacques Semelin, qui s'appelle, je crois, c'est sur le sort des Juifs de France, et dans lequel on apprend quand même que 75% des Juifs de France, 90% des Juifs français, c'est quand même la nationalité, soit n'ont pas été dénoncés, soit ont été protégés par les Français. Ce qui veut dire que la France, alors d'ailleurs, sur France Inter, dans une émission, il y avait un débat passionnant avec cet auteur, Jacques Semelin, et il disait que une des raisons de la protection ou de la non-dénonciation des Juifs en France aux autorités de Vichy ou aux autorités allemandes, c'était les instituteurs laïcs. Bon, il n'y a pas plus jaurétien que les instituteurs républicains laïcs. Donc on voit bien que là, dans l'histoire de France, parce qu'il faut se poser la question quand même, et si Dreyfus n'avait pas été réhabilité, et s'il n'avait pas eu la séparation de l'Église et l'État, qu'est-ce qui serait passé entre 1940 et 1944, qui s'est passé dans notre pays? Donc vous voyez que cette trace de l'affaire Dreyfus, ou qui s'est soldée par une victoire des Républicains, la trace de la séparation de l'Église et de l'État, qui a empêché que la religion empoisonne la vie politique en France, c'est constitutif de la République française. Et je pense que c'est très actuel, parce que ce serait trop long d'épiloguer, hein, je vais m'arrêter, mais vous savez, quand on regarde le monde d'aujourd'hui, la question de la séparation des églises et de l'État, la séparation de la religion et de la vie politique, c'est un immense problème. La France a réussi, comme République, à séparer les églises et l'État à la fin du Xe siècle. C'est gratuit de dire ça, mais la question se pose, est-ce que dans l'avenir, à l'échelle du monde, il ne faut pas mettre à l'ordre du jour la séparation des religions et des pouvoirs politiques? Parce qu'il y a beaucoup de dégâts à cet égard. Vous savez, la question est plus facile à poser que la question à résoudre, hein, que la réponse, si vous voulez, ça... Mais la question est posée. La question est posée, parce qu'à l'échelle du monde, et pas seulement en Égypte, en Tunisie, en Turquie, en Algérie, il n'y a pas que là. Vous savez, les États-Unis aussi, sur les relations entre la religion et les pouvoirs installés, c'est quand même une très grave question aussi, avec les évangélistes. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, l'autre chose qui, dans les traces de l'affaire Dreyfus, je me suis autorisé, parce que c'est une chose qui me préoccupe, qui m'a beaucoup préoccupé dans mon histoire de journaliste, c'est qu'il y a un autre épisode de l'histoire de France où le mot « affaire » a pris une grande importance, c'est l'affaire Audin. Voilà. Or, il y a des miracles dans la vie. Il se trouve que l'affaire Audin, c'est une affaire, vous savez l'histoire de Maurice Audin qui a été torturé à mort par les parachutistes à Alger, qui est mort sous la torture le 12 juin, pas le 12 juin, c'est là où il a été arrêté, le 21 juin 1957. Et il y a un historien qui a consacré tout un livre qui s'appelle L'affaire Audin, il s'appelle Pierre Vidal-Naquet. Pierre Vidal-Naquet, il fait ce livre, lui, il l'entreprend en 1957 avec l'accord de Josette Audin, la veuve de Maurice Audin, et il sortira le 12 mai 1958, la veille du coup d'État du 13 mai à Alger. Bon. Et ce livre, la quatrième de couverture, c'est un extrait de Jaurès sur l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire les gens qui ont été dans le comité Audin, dans ce mouvement du comité Audin, de l'affaire Audin, ils étaient très imprégnés de l'affaire Dreyfus et de la façon dont elle avait été traitée par Jaurès. Voilà. Donc, la veuve de Pierre Vidal-Naquet, qui s'appelle Geneviève Vidal-Naquet, m'a dit, je l'ai interrogée là, au printemps dernier, elle m'a dit, mais vous savez, quand nous étions jeunes, Pierre et moi, je faisais ma maîtrise d'histoire, et nous dévorions les preuves de Jaurès sur l'affaire Dreyfus. Donc elle me dit, vous savez, pour nous, Jaurès, l'affaire Dreyfus, c'est une chose qui nous a marqué profondément dans tout notre travail d'historien. Voilà. Là, l'autre chose que je vais évoquer plus rapidement, si vous voulez, je vous parlais de l'affaire Audin, c'est que dans les traces de Jaurès, il y a évidemment, si j'en parlais pas, certains d'entre vous seraient sans doute interloqués, c'est la question sociale. J'écoutais tout à l'heure la discussion qu'il y avait avec Michel Monponté à propos de ces carnets d'utopie, puisqu'il était question de coopératives ouvrières en France, donc sur le massif de Millevaches, le plateau, pas le massif, et en Espagne, en Andalousie. Bon, c'était très étonnant parce que les gens dont il parlait, qui s'exprimaient, si vous voulez, parlaient de ça, des coopératives ouvrières. Alors je n'ai rien dit, mais chez Jaurès, la coopérative ouvrière, c'est une chose absolument fondamentale. Hein. Et c'est la première coopérative ouvrière célèbre, il y en a eu avant, c'est la verrerie ouvrière d'Albi. Bon, et donc, j'en discutais avec les gens qui étaient dans la salle des fêtes, si vous voulez, la verrerie ouvrière d'Albi, avec Jaurès, il y a un énorme débat. Faut-il qu'elle soit ouvrière, c'est-à-dire des ouvriers, ou ouvrière, c'est-à-dire est-ce qu'elle appartient aux ouvriers, aux verriers, est-ce que c'est une coopérative des verriers, ou est-ce que c'est une coopérative ouvrière, c'est-à-dire reliée à l'ensemble du mouvement syndical. C'est très, très intéressant, ça. Parce que le problème avec les coopératives, c'est qu'est-ce que devient le contexte. Est-ce que pendant qu'on crée une coopérative, ce qui est formidable déjà, comme geste de défense et de création, est-ce que ArcelorMittal a le droit de bousiller des centaines d'ouvriers à Florange, et est-ce qu'Unilever a le droit de faire la loi à Gémenos? Vous voyez, bon, c'est quand même un sacré problème. Chez Jaurès, la question sociale, elle se construit au fil de sa vie. Jaurès n'est pas un homme qui a une théorie au départ. Hein. C'est même pas Karl Marx. C'est un homme qui échafaude au fur et à mesure sa pensée et elle se construit sur la pratique et sur à partir des événements. Par exemple, il est, lui, pour la substitution de la propriété sociale à la substitution de la propriété privée, des moyens de production et d'échange, pas des épiceries et des petites boutiques. Bon, ça c'est clair. Il y a des gens qui, depuis, après Jaurès, ont essayé de l'accommoder. En disant, non, mais Jaurès, c'est un modéré, c'est un réformiste, c'est ceci. Non, non, non. Jaurès, il est pour la substitution de la propriété sociale à la propriété privée. Mais, lui, il souhaite que ça se passe d'une façon volontaire. Donc, ce n'est pas un État, utile soviétique, qui va décréter, à un moment donné, tout est nationalisé. Non, ça, c'est, Jaurès n'est pas comme ça. Donc, par exemple, il y a un cas qu'il évoque, c'est le cas des cheminots. Les cheminots, ils se sont donné une caisse de protection mutuelle au début du XXe siècle. Bon, et Jaurès dit à ce moment-là, dans l'Humanité, je crois, il dit, ben voilà, ils arrivent à s'entendre pour une mutuelle de santé, ben, pourquoi ne pourraient-ils s'entendre pour exercer eux-mêmes, disons, pour gérer eux-mêmes l'entreprise? C'est-à-dire, c'est quoi en germe? C'est la nationalisation, qui ne sera pas exactement comme ça, mais il a en vue des nationalisations, il a en vue des services publics. Donc, quand même, il n'y a pas que l'idée de coopérative chez Jaurès. La question sociale, chez lui, est une question de base. C'est la question de l'avenir. Quelque part, c'est la plus importante des questions chez Jaurès. Voilà. Alors, pour finir, pour pas rester uniquement dans le tragique, bon, je me suis posé la question, à la fin, c'est est-ce qu'il y a une trace de Jaurès qui serait par hasard Jaurès lui-même, la figure de Jaurès, l'âme de Jaurès, l'esprit de Jaurès. Et je me suis lancé dans une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, mais pour moi elle vaut la peine, c'est, je dis que je l'ai trouvé chez un cinéaste. Ce cinéaste s'appelle Robert Guédiguian. Bon. Eh bien, parce que Marius et Jeannette, vous connaissez l'histoire, c'est la petite cour de l'Estac, ils sont tous là. Et c'est une petite république fraternelle. Moi, je dis, elle est jaurassienne, cette petite république. Parce que je pense que cette petite république, c'est un appel à ce que la république soit autre que ce qu'elle est, voilà, pour parler vite. Et puis, il y a un autre cas, c'est l'armée du crime. Parce que l'armée du crime, Robert, qui est un ami, l'a directement conçue, en partie, si vous voulez, avec des discours de Jaurès. Il y a le discours de Jaurès, l'hommage à Francis de Pressensé, en janvier 1914, qui était son ami, et dans lequel il a cette interpellation à la jeunesse. Qu'allez-vous faire de vos cœurs? Qu'allez-vous faire de vos cerveaux? Qu'allez-vous faire de vos 20 ans? Voilà. Et il y a, en 1903, à Albi, le fameux discours à la jeunesse au lycée d'Albi, de remise des prix, dans lequel il dit « Le courage, c'est d'aimer la vie et c'est de regarder la mort sans peur, sans avoir peur. » Eh bien ça, si vous voulez, je pense que c'est une base même de l'engagement dans la résistance tel que cet engagement est situé dans l'armée du crime de Guédiguian, j'allais dire de Manouchian. Bon, je ne vous en dis pas plus, mais là, quelque part, puis bon, j'évoque, vous verrez, si vous avez le livre au passage, c'est incroyable la façon dont la figure de Jaurès surgit dans les grands romans du début du siècle. Il est chez Proust à propos des massacres d'Arméniens en 1896. Il est chez Aragon, les cloches de Bâle, les beaux quartiers. Il est chez Romain Rolland et bien sûr chez Roger Martin du Gard, les Thibauts. Je ne sais pas si vous connaissez les Thibauts, mais la figure centrale des Thibauts, c'est Jacques Thibault, qui devient socialiste, qui meurt en jetant des tracts dessus des armées en guerre. Et ce Jacques Thibault, le 31 juillet 14, il est au Café du Croissant, il assiste, il arrive quand Jaurès vient d'être assassiné. Voilà. Je vous avais trop dit. Merci.